vous le savez, Sun est partenaire de la Nantes Digital Week et dans le cadre de ce partenariat, nous vous proposons tout au long de cette semaine de 12h à 13h de vivre ou de revivre les expositions, conférences ou encore événements marquants de ce qui constitue un des principaux rendez-vous sur la question du numérique en Pays de la Loire ainsi qu'en France. Aujourd'hui, c'est une balade sonore que vous proposent Charlotte Farouaux et Arnaud Gruet. Nos deux journalistes se sont rendus au lieu unique où se déroule jusqu'au 11 octobre prochain l'exposition Mind the Map proposée par le collectif Time's Up. Très bon voyage à tous.
Créé en 1996, le collectif Time's Up admet une pratique pluridisciplinaire au croisement des arts plastiques, du spectacle, de la technologie, ainsi que des sciences sociales et culturelles.
Jusqu'au 11 octobre prochain, à la demande du lieu unique, le collectif installe entre fiction et réalité le récit physique Mind the Map, véritable déambulation humaine et sensorielle. Pendant près de 2 ans, Time's Up a déchiffré le passé, le présent et l'avenir de nombreux phénomènes socio-économiques afin de mettre en évidence la problématique de la politique européenne d'immigration et d'asile, en particulier celle des flux de réfugiés en Méditerranée.
Pour en parler, nous avons suivi Benjamin Barraud, médiateur culturel au lieu unique qui, pas à pas, au cœur de l'exposition, nous présente cette création plus que jamais au cœur de l'actualité. Cette musique qu'on entend juste à l'entrée de l'exposition, qu'est-ce qu'elle représente en fait ?
Alors, cette musique, elle évoque en fait la vie de l'héroïne de l'installation, Christine Collan, qui est une richissime autrichienne, qui va donc se permettre de naviguer sur son poilier. Elle est installée à Naples, elle mène une vie tranquille. Donc cette musique évoque la navigation de plaisance, le plaisir de naviguer sur la Méditerranée en toute tranquillité. C'est le début de l'installation, le début du récit.
Montrer qu'en fait, c'est une dame toute simple finalement qui jouit des plaisirs de la vie.
Oui, c'est ça, une personne qui se permet donc de vivre de sa passion la mer, la navigation. Et c'est vrai que la culture de la plaisance, du voilier, c'est plutôt relax, c'est axé sur les rencontres et sur un certain mode de vie très tranquille, vu que, on va dire, la liberté.
Où est-ce qu'elle démarre sa vie en fait à cette dame ?
Elle a 44 ans, elle est autrichienne, issue d'une famille très riche, d'industriels donc autrichiens. Et sa vie, lorsqu'on prend le début de l'installation, c'est donc elle arrive à un stade de sa vie où elle jouit pleinement de sa liberté. On comprendra le contraste avec cette liberté, parce qu'aujourd'hui, la liberté de mouvement, c'est en mer qu'on peut vraiment l'appréhender, la vivre. J'ai un petit peu pratiqué, c'est vraiment sur la mer qu'on se sent libre. Et cette liberté, on y reviendra plus tard.
Alors, quand on rentre dans cette pièce, dans cette grande pièce, on est tout de suite envoûté par ces grands draps bleus et bleu turquoise et vert. Qu'est-ce que c'est censé évoquer en fait ?
Donc on a déjà effectivement un mobile assez curieux avec un mouvement de vague. On est sur un mélange de sensations donc auditives, sur des réflexions. On est sur le pont d'un voilier avec un beau soleil. Tout ce que la vie sur Terre nous offre de meilleur, encore une fois, l'océan, enfin la mer, la liberté. Pas de contraintes, voilà, et la douceur, et l'infini des flots bleus.
C'est ce qu'on voit à travers ces reflets.
Exactement, ouais. C'est une installation, une expérience, un récit physique, donc on a ce hublot qui est bien là, quoi, qui est assez massif.
On arrive sur ce pont de voilier, si je ne me trompe pas.
Alors on a la reconstitution d'un pont de voilier, tout à fait. On peut monter dessus.
Et on peut constater que ça tangue.
Ça tangue, on a effectivement la sensation d'être sur le pont d'un bateau. On a donc la barre, le radar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits messages en même temps d'une radio qui nous indique aussi par le son des vagues que la vie en mer, c'est pas seulement la tranquillité, le calme, ça peut être un peu plus agité.
We are attempting to divert a cargo ship to your location. Stand by. Over.
Et en fait, on a des messages un petit peu inquiétants qui défilent sur le radar, où on parle de survie. On entend des voix, des personnages en train de tousser. Enfin, en fait, des pleurs d'enfants. Donc, tout d'un coup, on comprend que cette navigation de plaisance de Christine Collan est en train de se compliquer. C'est beaucoup plus sombre aussi. En fait, Christine Collan se retrouve face à des naufragés en pleine mer, au large de l'île Lampedusa, donc au sud de la Sicile. Et au nord de la Libye.
C'est d'abord via la radio qu'elle les entend, via son sonar.
Ça, c'est à chacun, c'est aux visiteurs de se mettre, de voir à travers l'héroïne ce qui peut se passer. En tous les cas, on est dans un cas de péril en mer, de sauvetage.
Alors là, on est face à la barre, mais si on se tourne sur notre gauche, on voit un hublot derrière lequel on voit trois visages, trois silhouettes de visages crayonnées je sais pas quelle matière c'est d'ailleurs.
En fait, effectivement, le premier hublot avec les vagues succède à un deuxième hublot avec des personnages recouverts de couvertures hypothermiques. C'est-à-dire, c'est des couvertures dont on revêt les naufragés pour qu'ils puissent se réchauffer. Et ces trois personnages, donc un homme, une femme, un enfant, ont été dessinés à partir de photos de naufragés, de migrants en naufrage.
Pourquoi ils ont été placés ici en particulier ?
Eh bien parce qu'on on revit en fait le moment où Christine Collan se trouve face à ses naufragés. Et le réflexe premier en mer, évidemment, c'est de porter secours aux naufragés.
C'est précisément à ce moment-là déjà qu'ils ont été pris en charge.
Voilà, c'est ça. On ne rentre pas dans les détails, après il faudra parcourir son journal, on y reviendra. Mais elle va les ramener à son bord. Et depuis ce bateau, ce voilier, retourner sur les côtes italiennes, les côtes siciliennes. Avec donc cette dizaine de migrants africains qui se sont retrouvés jetés en mer sur une embarcation de fortune qui a coulé. Voilà.
Justement, vous évoquez le journal de bord. On peut voir qu'il y en a un premier ici.
Tout à fait. Donc le spectateur, enfin les visiteurs peuvent à certains endroits s'asseoir, se poser. C'est vraiment le propre de cette installation. Ouvrir le journal de bord de Christine Collan et lire son récit de manière assez détaillée. C'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans sa vie, rentrer dans la vie qu'elle avait avant le drame. Et en faisant cela, nous sommes assis sur le pont face à une carte qui est la carte de sa navigation, avec les différents points de sa navigation, le dernier étant donc au large de l'île Lampedusa. Christine est artiste, on apprend qu'elle est photographe, dessinatrice. D'ailleurs, ce personnage n'est pas pour rien artiste. Elle est assez proche en fait de l'équipe du collectif Time's Up. C'est un personnage dont les traits ont été dessinés à partir des expériences un peu personnelles de l'équipe. Et ce journal offre une série de croquis et de petits commentaires très, très personnels. Voilà, ce qui nous permet de rentrer vraiment dans la vie de Christine Colan. C'est pas juste anecdotique, c'est le carnet de voyage, au jour le jour.
Il y a également un sac sur lequel est inscrit son nom et son prénom. Pourquoi est-ce qu'il a été posé ici, à côté de son journal, sur le pont de ce bateau?
Donc a priori, quand le visiteur entre dans l'installation, nous n'allons pas le prendre en charge, enfin quand je dis nous, médiateurs, c'est-à-dire que c'est vraiment lui ou elle qui fait son expérience dans l'installation. C'est-à-dire que la personne, voyant ce journal et le nom Christine Colan, aura peut-être l'idée d'ouvrir le journal, ou pas. Donc ce nom, en fait, va revenir à plusieurs endroits et rentrer ainsi dans l'esprit du visiteur. Ok, Christine Colan, il y a quelque chose à fouiller avec ce personnage.
Donc, quand on parle de récit physique, on peut se définir comme un jeu de piste, au final.
C'est tout à fait un jeu de piste.
J'ai eu la curiosité de fouiller dans ce sac. J'ai trouvé un étui à lunettes contenant des médicaments. Alors, est-ce que c'est un rapport avec l'exposition ou pas du tout?
Ouais, je pense que ça fait partie effectivement des détails. C'est une installation avec énormément de détails. Time's Up a travaillé pendant 2 ans sur cette installation, qui est une création, une commande de lieu unique. Effectivement, il y a pas mal de détails. Lorsqu'on s'intéresse, on peut avoir une visite très, très profonde de cette installation et être dans le côté physique, aussi bien en touchant la barre, le pont en teck ou la trousse de pharmacie qui a pu être utilisée lors du sauvetage.
Bien, continuons donc le parcours. Là, nous sommes face à une immense carte qui doit faire 3 mètres sur 3, si je ne m'abuse, à l'œil comme ça. Qu'est-ce qu'elle représente? Il y a énormément de points noirs. Qu'est-ce qui représente ces points noirs? C'est une carte de l'Europe et de l'Afrique.
Alors effectivement, au revers de la carte de navigation de Christine Colan, une autre carte s'impose qui, elle, est bien réelle. C'est une carte qui montre en fait les différentes disparitions de migrants. Disparition ou mort. Depuis les années 2000, l'équipe de Time's Up a donc collecté en fait une série d'accidents, que ce soit au large des côtes atlantiques, mais évidemment en Méditerranée ou ailleurs, soit des détenus réfugiés qui sont morts dans les pays qu'ils cherchaient à atteindre, ou soit morts ou disparus sur leur route. Et on voit énormément de points noirs. C'est des milliers de migrants qui trouvent la mort chaque année. Des milliers sur la mer Méditerranée, mais on peut multiplier ces morts et ces disparus dans tout le reste de l'Europe et des côtes africaines.
Ça, c'est une question que je me pose, c'est pourquoi la carte s'étend jusqu'au sol? On pourrait presque piétiner l'Afrique. Alors, est-ce qu'il y a une signification à ça ou c'était purement un souci technique du fait de la hauteur, la hauteur sous plafond?
Je pense que l'idée d'une carte déjà qui va se prolonger jusqu'au sol permet plus aux visiteurs d'entrer dans la carte. Et cette installation, on y reviendra, nous propose en tous les cas d'entrer dans un sujet plutôt que de le suivre en surface. On va rentrer dans la vie du personnage et soudainement on rentre dans la réalité. Et le fait de pouvoir marcher sur la carte nous fait juste rentrer dans une réalité assez terrible. qui est souligné par tous ces dépêches qui sont pour le coup en anglais, projetées depuis environ 2000 jusqu'à nos jours, des personnes donc mortes ou disparues sur le trajet de leur migration. Donc là, on est dans la réalité tout d'un coup et on rentre dedans à proprement parler.
Ça manque d'humanité parce que justement, on affiche des dépêches journalistiques et ce sont simplement des chiffres, des dates et juste des personnes. Alors, pourquoi ne pas avoir voulu souligner plus d'humanité dans ces projections ?
Eh bien, parce qu'en fait, dans cette installation, donc, on invite le visiteur à rentrer dans l'histoire de Christine Kelan, donc une personne particulière, et son expérience fictive. En revers, on a toujours la réalité. On le retrouvera dans le reste de l'installation. Et on ne va pas forcément prendre à la légère ces dépêches. C'est juste qu'elle va sauver 10 personnes. Et ces 10 personnes ne sont qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Et ça nous permet juste de prendre la mesure en fait, de ces drames humains.
Est-ce que vous savez sur quelle base ils ont effectué leur recherche ?
Les dépêches de l'AFP, les dépêches des médias.
Donc à ce moment-là,
forcément exhaustif, bien sûr, malheureusement.
C'est une bonne partie qu'on ne sait pas non plus.
Tout à fait. Ben, lorsqu'on parle de personnes disparues, et comme les migrants n'ont pas d'identité parfois, effectivement, c'est juste ce qu'on sait, ce qu'on connaît.
Alors là, juste avant de rentrer dans ce lieu, face à ces dépêches, face à cette carte, à quel moment en est-on là ?
Vous parliez d'un côté un peu inhumain et froid de ces dépêches, et donc c'est pas non plus par hasard, parce qu'elles disparaissent, donc elles vont défiler de droite à gauche, et en suivant le cours de ces dépêches, on arrive dans une cellule qui est reconstituée avec des barreaux en acier, un lit de cellule, donc on va rentrer dans la cellule, et ces dépêches assez froides, des dépêches de police, en fait, nous amènent dans un monde carcéral.
On va rentrer justement dedans. Donc là, nous sommes dans une cellule de prison, je présume. On peut y voir énormément d'indices, d'éléments, à commencer par ce mur tagué de multiples inscriptions. Qu'est-ce qu'elles représentent ?
Donc là, on se retrouve dans la cellule de Christine Kelan. Comme toujours, le visiteur qui n'aura pas ouvert son carnet de bord va vivre cette expérience sans trop savoir vraiment ce qui se passe. En tous les cas, ce mur avec ses graffitis est fidèle au mur d'une cellule de détention de migrants en Italie. Donc c'est une reconstitution fidèle d'un mur de prison. Aucun graffiti n'a été inventé. Et voilà, et c'est la cellule dans laquelle se retrouve Christine Kelan. Nous avons son lit, nous avons de nouveau le deuxième point avec son sac et son journal. Et le visiteur peut tout à fait s'asseoir sur le lit de détenu de Christine Kelan.
Miss Kelan, why do you know?
Avec la table d'interrogatoire, le grillage et bien sûr les fils barbelés qui ferment le camp de détention.
Alors sur le lit, on peut voir un casque audio. Pourquoi il a été placé ici et à quoi il a servi à Christine Kelan ?
Je pense que le casque audio ne faisait pas partie forcément de la cellule, mais il permet au visiteur tout d'un coup de le prendre, de le saisir, et en se retournant de découvrir un écran de télévision. Et donc l'idée en fait, casque, écran de télévision, c'est éventuellement que le visiteur prenne le casque, le mette sur ses oreilles, ce qui lui permet en fait de suivre l'histoire du sauvetage des migrants et l'inculpation de Christine Kelan dans la police italienne, suspecte qu'elle fait du trafic d'humains.
C'est ce dont à ce moment-là elle est suspectée, et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette cellule.
Exactement.
On a ensuite ses blousons et ses vestes, ça fait partie de la prison dans laquelle elle est. D'ailleurs, où se situe cette prison ?
En Italie, depuis la Sicile, donc son bateau a été réquisitionné. Et elle est donc toujours suspectée, très sérieusement, d'avoir d'aider en fait illégalement des migrants africains à entrer en Europe. C'est ça le chef d'inculpation. Et a priori, elle est là pour un certain temps, quoi. Ce n'est pas forcément indiqué, il faut vraiment suivre le journal. Hein. Et à ce moment-là, de toute façon, le visiteur va, grâce au trou dans le grillage, va être invité à continuer sa découverte de l'installation. Et on comprendra par la suite la durée de sa détention et les circonstances de sa libération.
Son, be assured, we will find proof of your guilt.
Nous sommes dans une installation artistique, il y a des éléments qui sont très réalistes, puis des éléments qui sont esthétiques. Et la table, donc, dans la cellule, en fait, présente deux bobines d'enregistrement, avec un niveau pour le son, des boutons, et qui se rembobinent. Et qui est diffusé. On n'entend jamais directement la voix de Christine Colon. Ça nous met dans une certaine ambiance et à la fois c'est esthétiquement intéressant. Avec un banc, un tabouret, je veux dire, qui permet de s'asseoir, car comme toujours, le visiteur est invité à se poser, à s'asseoir, à se mettre à la place de Christine Colon, ou du moins de voir cette histoire à travers ses yeux.
On a un trou dans le grillage qui n'est pas supposé être ici, je pense. Alors, est-ce qu'il y a eu évasion ?
Non, c'est juste un trou un narratif quoi, qui nous permet de passer d'un tableau à l'autre.
Bah justement, quand on traverse ce grillage, on tombe face au drapeau européen.
Au drapeau noir. Alors, en fait, donc, comme précédemment, la fiction est en vis-à-vis d'éléments de la réalité. Et c'est les fenêtres donc, de l'atelier sont transformées en écran de projection avec des images de camps de détention de migrants et des commentaires, des témoignages de migrants détenus. Donc ces témoignages sont réels, ils défilent.
Toujours de manière assez impersonnelle.
Certes, mais on rentre par contre dans du contenu qui fait partie de la réalité. Voilà. Et avec ce drapeau noir européen qui évoque un événement où un camp de détenus migrants a été brûlé en Allemagne. Et, en réaction, les habitants avaient hissé un drapeau européen noir, en hommage aux victimes de l'incendie.
Un grave accident de la route s'est produit hier sur la Marlenstraße dans le district de Perg en Autriche. Les gérants Walter et Ingrid Colon de Colon AG, leurs fabricants de clôtures de renommée internationale, sont sortis de la route hier soir à proximité du siège de leur entreprise pour des raisons encore inconnues.
Oui, là-haut, il y a un... Charlotte me fait remarquer.
Un gyrophare.
Il y a un gyrophare, voilà, c'est ça.
Donc là, on arrive dans une ambiance... pareil, le visiteur ne pourra pas forcément comprendre hein, s'il n'a pas ouvert le journal de bord de Christine Colon avec un gyrophare. Et donc une vitre de voiture brisée sur laquelle est projeté un nouveau flash d'information qui traite d'un accident. Donc on apprend que la famille de Christine Colon, à savoir son frère et sa sœur, sont morts dans un accident de voiture. Donc, un gros point d'interrogation, pourquoi cet événement va-t-il avoir une importance dans l'installation ? On le découvrira. Mais en tous les cas, on est dans une mise en scène un petit peu inquiétante. Et en même temps, on a donc un point sur l'activité de cette famille Colon, qui sont des fabricants de clôtures autrichiens. C'est la plus grosse entreprise de clôture autrichienne et une des principales entreprises de clôture en Europe, toujours fictive.
Les trois occupants n'ont pas survécu à l'accident. Le conducteur de la voiture, Walter Colon, est décédé sur place avant l'arrivée des secours.
On apprend aussi donc que celle qui devient l'héritière, enfin qui devient l'unique responsable de cette entreprise est Christine Colon, inculpée, soupçonnée d'avoir aidé des migrants à rentrer illégalement en Europe. Et Christine Colon est libérée de prison provisoirement pour prendre en fait sa place de PDG de l'entreprise Colan.
Colan Cagui est une entreprise familiale depuis sa fondation en 1914. Au fil des décennies, l'entreprise est devenue un fabricant de paravalanches et de dispositifs de protection alpin de renommée internationale.
Elle est donc libérée.
Ah, elle est libérée.
Et on a juste dans le prolongement de cet écran sur le pare-brise, un bureau massif de chef d'entreprise qu'on va peut-être découvrir.
Juste avant d'y venir, les tracés au sol.
Les tracés au sol évoquent l'accident, évoquent donc le lieu d'un crash, le lieu d'un homicide, en tous les cas, évoquent le lieu d'un sinistre qui est donc délimité par les services de police.
La justice italienne accuse Christine Colan d'aide à l'immigration clandestine. Vu les circonstances actuelles particulièrement tragiques, il semble que l'héritière désormais unique de Colan Agui soit d'ici peu autorisée à quitter le territoire italien pour rentrer en Autriche.
On se trouve donc devant un bureau avec une lumière tamisée et un écriteau en argent sur lequel est inscrit « Fabricant de clôture Colan ».
Nous sommes donc au siège de l'entreprise Colan. En Autriche. Christine Colan a pris possession donc, de la direction. Plusieurs choix s'offrent à elle. Elle qui avait donc décidé de vivre une vie libre de navigation et de poésie, une vie artistique, se retrouve en fait à occuper des fonctions très importantes avec des choix décisifs, non seulement pour sa vie, mais aussi pour en fait, l'Europe et les choix vis-à-vis de la migration, car elle découvre que l'entreprise familiale développe un nouveau type de matériaux invisibles, de clôtures invisibles, qui d'une part vont intéresser les parcs nationaux, mais qui intéressent aussi une entreprise privée qui s'appelle Eurosecure, toujours fictive, et qui éventuellement s'intéresse à protéger ses frontières avec ce type de clôture. Nous avons derrière ce bureau différents panneaux avec des articles, des coupures de presse, où on voit en fait que Christine Colan a découpé et collé des articles pour essayer de trouver un sens à sa vie et d'organiser sa vie entre son naufrage, l'expérience qu'elle a eue d'avoir été inculpée juste pour avoir sauvé des pauvres naufragés originaires d'Afrique, l'histoire de son entreprise avec donc un passé nazi, donc une entreprise qui n'est pas forcément très nette, et un futur qui n'était pas très net dans le développement de clôtures contre les migrants.
On a un moment de salut là où elle est complètement perdue en fait.
C'est ça, elle doit faire des choix.
Et puis sur ce bureau, il y a le troisième carnet de Christine Colan.
Alors en fait, les trois carnets sont quasiment identiques. Le premier s'arrête au moment où elle va découvrir les migrants en péril. Le deuxième dans la cellule et le troisième sur le bureau sont les mêmes. C'est juste une invitation donc aux visiteurs qui n'auraient pas pris le temps de s'asseoir dans la cellule, qui n'auraient pas osé s'asseoir sur le lit et saisir le carnet. Nous avons un siège très confortable. Ce bureau avec ce siège de ce carnet, c'est une invitation, la troisième chance pour le visiteur de se poser enfin et d'ouvrir ce journal de bord pour rentrer dans le récit de Christine Colan et comprendre ce qui se passe dans cette installation.
C'était un moment de sa vie, elle faisait des choix et un document signé de sa main sur le bureau.
Alors, va-t-elle ou pas vendre la société ? Si elle vend la société, c'est la possibilité que donc, cette technologie de clôture soit utilisée pour fermer encore plus les frontières, lui apporterait en même temps une liberté, beaucoup de moyens pour bien vivre et peut-être aider les migrants. En fait, on va comprendre pourquoi on s'intéresse à tous ces choix, finalement. On va très vite le comprendre.
On revient à ce mur sur lequel sont énormément collés d'articles de journaux. Et au centre, il y a cette fameuse lettre d'intention qui était présente sur le bureau. Et tout est lié par des fils et des punaises.
Alors déjà, c'est un tableau qui peut être assez esthétique avec ces fils de laine rouge, vert et bleu et jaune. Ensuite, tous ces articles vont créer une confusion dans l'esprit du visiteur parce qu'ils ont l'air plus vrais que nature. Notamment, on a des articles qui disent « Eurosécure met en garde contre un afflux de réfugiés clandestins cet été ». On sait que cet été a été particulièrement important pour ce qui est d'afflux de Syriens notamment. Donc on se demande vraiment à ce moment-là si l'histoire de Christine Colan est réelle. Ce questionnement va nous permettre en fait d'appréhender tout ce qu'on vient de voir. Et ce qu'on vient de voir, en fait, on s'est mis à la place d'un personnage, d'une personne, d'un cas particulier. Et c'est peut-être la meilleure façon d'apporter des réponses aux problèmes d'immigration, c'est de se mettre à la place de quelqu'un, de vivre une expérience profonde plutôt que de rester à la surface des articles qu'on peut voir à travers les médias. Donc en se mettant à la place de Christine Collan, qui a les moyens de choisir, on se met à la place des dirigeants européens qui ont aussi, en tant que pays riche, les moyens de choisir que faire avec ces problèmes de migrants. Est-ce qu'on doit juste les tenir à distance sous prétexte qu'ils sont nés du mauvais côté de la carte, du mauvais côté de la mer Méditerranée, ou est-ce qu'on doit changer nos sociétés? Donc Christine Collan se pose des questions si elle doit changer sa société afin de nous inspirer une autre question, est-ce qu'on doit changer nos sociétés? À ce moment-là, de toute façon, on commence à comprendre que cette mise en scène, cette fiction, est une façon de s'ouvre, s'élargit et nous concerne tous. Concerne les choix de l'Europe vis-à-vis des migrants et non pas seulement l'histoire de Christine Collan qui est un personnage fictif.
Qu'est-ce qu'il advient des migrants qu'elle a sauvés en tout début sur son bateau?
Précisément dans son journal, à la fin en fait, de son récit, elle cherche, elle attend son procès parce qu'en fait son cas n'est pas encore réglé, le procès n'a pas encore eu lieu et elle cherche à avoir des nouvelles de ces personnes qu'elle a sauvées sans pouvoir les retrouver. Ils se sont fondus, soit ils ont atteint un pays européen et se sont fondus, soit ils ont retrouvé leur pays d'origine et se sont fondus. En tous les cas, elle ne les retrouve plus. Elle a perdu leurs traces. Elle se retrouve un petit peu, comme je le disais, dans la même situation que le visiteur, a priori européen, qui cherche en fait à en savoir plus. Et on se retrouve sur un point, sur un gros point d'interrogation. Que faire?
Est-ce que Christine Collan ne serait pas en fait la personnification de l'Europe quand elle est PDG de cette entreprise? Capable en même temps de construire des frontières, mais aussi de les détruire.
C'est tout à fait ça. C'est vraiment le but de l'installation. Même si Time's Up ne veut pas se montrer pédagogue ou péremptoire, mais il pose, à mon avis, des bonnes questions. Et surtout en mettant le visiteur dans la peau d'un personnage, car encore une fois, c'est le cas particulier qui peut peut-être aider. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on adopte une attitude, peut-être que ça peut influencer le reste, même si on n'est pas chef d'État.
Donc si on se dirige dans la dernière pièce, on est face à une barrière, une double barrière. On peut la franchir par la gauche ou par la droite. Face à nous la sortie, mais avant ça, il y a cet écran sur lequel est inscrit énormément d'informations. Je vous laisse décrire.
Le titre de l'installation, c'est Mind the Map, qui rappelle une mise en garde dans le subway londonien Mind the Gap. Le trou en fait, dont il faut se méfier, c'est la Méditerranée. On tombe assez souvent, il faut faire attention. D'autre part, Mind the Map, de quel côté de la carte on se trouve? Si on est au nord de la Méditerranée, c'est peut-être qu'il y a des choses à faire. Au sud, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut faire bien attention que tout peut être inversé. C'est-à-dire que nos acquis en tant qu'Européens ne sont pas forcément éternels. Et la liberté de circuler dont nous jouissons pourrait un jour être mise en cause dans la mesure où d'autres êtres humains ne l'ont pas. Et cette carte qui va donc être en vis-à-vis de la fiction, à chaque fois on a fiction et en vis-à-vis de la réalité, on a ce portillon avec ces deux côtés qui vont indiquer comme des portillons d'une douane. D'un côté on peut entrer en Europe, de l'autre côté on en sort, quelque chose comme ça. À chaque passage, nous avons des messages qui défilent sur la carte. Donc soit la carte va se présenter comme étant les pays européens en rose avec des panneaux welcome, genre les migrants sont les bienvenus. Ce qui a été le cas pendant au moins tout le XXe siècle, hein, c'est-à-dire que les vagues de migration ne datent pas de l'été 2015. Et lorsqu'un conflit frappe un pays, il est arrivé que des centaines de milliers de migrants parviennent jusqu'aux pays européens et s'intègrent, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on continue à ouvrir ces portillons, on a des messages, donc les positions importent, des messages très simples qui vont ouvrir le sujet et nous permettre de réaliser que ce qu'on vient de vivre dans cette installation, ce n'est pas juste le récit de Christine Collan, mais bel et bien notre position aujourd'hui. On peut s'amuser à ouvrir le portillon pour voir ce qui se passe sur la carte.
Et le portillon de droite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Les cheminements importent. Il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, entre l'un ou l'autre. Ce serait trop facile et faux, de toute façon. On n'est plus dans un clivage gauche-droite par rapport à ces questions.
Il y a deux portes et une seule issue.
Oui, voilà, c'est ça. C'est bien dit. Et l'issue, en fait, nous fait sortir du lieu unique. Donc ça veut dire que jusqu'au bout, le visiteur aura cette expérience physique d'être jeté, en quelque sorte, en dehors du cocon du lieu unique. C'est pas rien, en fait, de sortir du lieu unique, parce qu'on se retrouve quand même à prendre un escalier et donc à sortir de cette chaleur du lieu unique. Après, on peut y revenir, c'est ça l'intérêt. Et recommencer le parcours.
Vous disiez que c'était une commande d'Ulu, cette exposition. Pourquoi vous avez choisi cette thématique ?
Time's Up a déjà travaillé avec le lieu unique au tout début, dans les années 2000. Patrick Geiger, donc le directeur du lieu unique, les a invités à reproduire une expérience avec plus de moyens. Il les a invités en 2013 à réaliser cette installation pour l'atelier. Donc Time's Up ont pris les mesures précises de cet espace et ils travaillaient déjà sur la thématique des migrations. Donc c'est une thématique qui leur est chère. Le lieu unique et Patrick Geiger n'ont pas forcément influencé sur la thématique. Ils ont juste invité le collectif à réaliser une installation ici en 2015.
C'est très mystérieux, on ne trouve pas grand-chose sur eux.
Alors je pense que c'est effectivement que c'est un collectif basé à Linz, en Autriche. Ils ont une belle renommée internationale, mais ne cherchent pas forcément la médiatisation et sont plus sur les chemins de traverse. Ils sont une trentaine, tous styles confondus, vidéastes, dessinateurs, sculpteurs. Ils travaillent beaucoup sur les arts numériques aussi. Là, la partie numérique est assez discrète, assez subtile. C'est juste un collectif qui, vous le verrez sur leur carte postale, ont cet automne énormément d'expositions et d'installations dans toute l'Europe, voilà, qui sont assez humbles et donc qui ont un bel esprit et qui vont surtout ne pas vouloir mettre... ne veulent pas être didactiques, n'ont pas de grands discours. Et ce qui est proposé ici, c'est une expérience esthétique avant tout.
Pour inciter les gens à venir voir l'exposition.
Il est très intéressant de découvrir ce que Time's Up appelle un récit physique. Dans l'art contemporain, on peut avoir d'un côté l'œuvre, de l'autre le public, et parfois des œuvres assez obscures, qui peuvent être très touchantes, mais qui peuvent rester obscures. Dans les arts numériques, on a ce côté un peu virtuel, interactif. Dans cette installation, justement, le côté physique, c'est Time's Up eux-mêmes qui décrivent cette expérience comme un récit physique. On a un journal de bord qu'on ouvre, on prend son temps, et ça fait du bien, à un moment donné, de se poser et de faire cette expérience, en fait, où on va, avec le toucher, avec la vue et l'ouïe, et le temps qu'on accorde à une lecture, faire un parcours. Donc je pense que c'est une expérience qui mérite vraiment d'être découverte et que moi-même, j'apprécie énormément.
On l'a également beaucoup apprécié.
Retrouvez l'exposition Mind the Map du collectif Time's Up jusqu'au 11 octobre au lieu unique. Cette exposition est présentée dans le cadre du festival Scopitone, de la Nantes Digital Week, du festival D et des géopolitiques de Nantes.
Et l'intégralité de cette déambulation est à retrouver sur le www.lesonunique.com.